Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et comme chaque jour à partir de 13h sur Europe 1, Franck Ferrand nous emmène effectivement au cœur de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Elle a commencé sa carrière sur des tréteaux de foire avant de faire tourner la tête du charmant Molière, du grand Corneille et du sublime Racine. Elle s'appelait Thérèse de Gorle, mais l'histoire n'a retenu que son nom de scène, Marquise.
Marquise à laquelle Christophe Maury a consacré tout un ouvrage.
Une biographie inspirée, sous-titrée La vie sensuelle d'une comédienne, où il évoque notamment les circonstances troubles et même mystérieuses de la mort de cette grande séductrice devant l'éternel. Christophe Maury est là pour nous parler de Marquise, mais avant de le recevoir, je vous propose de nous immerger un moment dans le théâtre du XVIIe siècle, en compagnie de l'administratrice générale de la Comédie française, Muriel Mayette.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Notre siècle est celui de la série télé. Le précédent fut le siècle du cinéma, c'est incontestable. Au 19e siècle, on a connu l'apogée de l'opéra et avant lui, au 18e, sans doute celle du ballet. Mais le 17e siècle, en France notamment, aura été le siècle du théâtre. À l'époque, la deuxième ville du royaume par la taille et la richesse ne se trouve pas du côté de Lyon ou de Marseille. La deuxième ville à l'époque, c'est en Normandie, c'est à Rouen. Et dans cette cité magnifique, c'est là que pour la première fois, en 1557, des comédiens ont joué dans un lieu clos. C'était vraiment une première en France. Alors on a l'habitude à l'époque de transformer, vous savez, les jeux de paume de moins en moins fréquentés en théâtre de plus en plus prisé. Les deux grandes salles rouennaises, ce ne sont pas les seules, sont celles des Deux Morts et des Braques, le jeu de paume des Braques, cette dernière présentant l'avantage de se trouver à quelques pas seulement de la rue de la Pie, où réside le plus grand auteur de son temps, considéré dans les années 1640 et 1650 comme le grand poète national Pierre Corneille. Son jeune frère Thomas, il a 20 ans de moins ou presque, réside sous le même toit que Pierre. Eh bien, c'est là, justement, au jeu de paume des Braques, que vient de s'installer au printemps 1658 une troupe de comédiens ambulants que les frères Corneille connaissent depuis 15 ans, la troupe de Madeleine Béjart, connue sous un nom un brin pompeux, l'illustre théâtre. De cette troupe se détache un certain Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, et un certain René Berthelot, alias Duparc, dit Gros René. Gros René a presque la trentaine en 1658. C'est un brave garçon, tout à fait obèse, plein de vie certes, et qui excelle dans la farce, mais soyons honnêtes, on a du mal à imaginer qu'il ait pu épouser 5 ans plus tôt la superbe, la merveilleuse marquise, divine créature qui fait chavirer les cœurs à chaque pas qu'elle fait sur les planches. Parmi les innombrables soupirantes marquises, il faut compter en ce printemps rouennais de 1658 les frères Corneille en personne. Je dis bien les frères, car Pierre lui-même, il a quand même 52 ans à l'époque, Pierre se sent soudain ragaillardi et dévoré d'amour. Il adresse à Marquise des vers assez méconnus. Je vois mes cheveux gris, je sais que les années laissent peu de mérite aux âmes les mieux nées. Que les plus beaux talents, des plus rares esprits, quand les corps sont usés, perdent bien de leur prix. Si dans mes beaux jours je parus supportable, j'ai trop longtemps aimé pour être encore aimable, et que d'un front ridé, les replis jaunissants mêlent d'un triste charme aux plus rares encens. Je connais mes défauts, mais après tout je pense être pour vous encore un captif d'importance. Car vous aimez la gloire, et vous savez qu'un roi ne vous en peut jamais rassurer tant que moi. Il est assez content et sûr de lui, Pierre Corneille. Il faut croire que la gloire du grand homme n'a cependant pas impressionné Marquise, puisque quelques semaines plus tard, c'est un Pierre Corneille plein d'aigreur et de dépit qui lui adresse ses stances en heptamètre, alors très célèbre celle-là. « Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront et saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes. Vous serez ce que je suis. Pensez-y, belle marquise, quoiqu'un grison fasse effroi, il vaut bien qu'on le courtise quand il est fait comme moi. Georges Brassens, un peu plus tard, beaucoup plus tard, mettra tout cela en musique.
Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis.
Franck qui nous emmène aujourd'hui sur Europe 1 au théâtre. Nous sommes au XVIIe siècle et nous avons rendez-vous avec la sublime marquise.
Vous devriez vous procurer un brigadier, Julia, et nous taper les trois coups d'ici à la fin de
l'émission. La prochaine fois, j'y songerai.
On va essayer
plaisir.
De faire ça. Alors, nous sommes pris de scrupules, pour tout vous dire, et de légers regrets, puisque je vous ai donné la partie de la chanson de Brassens écrite par Corneille, donc les stances à marquise. Mais il faut savoir que bien plus tard, Tristan Bernard répondra à Corneille, il prêtera sa plume à Marquise. Et voilà ce que ça donne, c'est la fin de la chanson de Brassens.
Peut-être que je serai vieille, répond Marquise cependant. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant.
Respectueux, Tristan Bernard.
Les choses sont claires, oui. Voilà.
Je suis très heureux d'accueillir Muriel Mayette, qui est l'administratrice générale de la Comédie-Française. Bonjour Muriel,
bonjour,
merci d'être des nôtres.
Invitation.
Vous nous aviez accueillis d'ailleurs dans le Théâtre-Français il y a un petit peu plus d'un an maintenant. C'était un bonheur de se promener dans cette maison de Molière tout à fait extraordinaire et encore empreinte de l'esprit de l'époque. C'est ça qui est étrange. Comme si ce grand siècle du théâtre, qui a été le 17e, avait projeté son ombre sur tous les siècles qui suivent.
Ce que nous a enseigné essentiellement le 17e, grâce à Molière, qui est notre héros, toujours notre fidèle patron, c'est que le théâtre ne tient que grâce à ses acteurs, à ses interprètes. On va parler de Marquise, vous nous faites entendre les chansons de Brassens, c'est dire que ses interprètes inspirent les artistes les siècles après siècles.
Oui.
Et à la Comédie Française, on a toujours, par exemple, chaque étage de la maison porte le nom d'un acteur. Chaque salle de répétition porte le nom d'un acteur.
C'est une mémoire qui est très vivante encore et que l'on croise à chaque couloir, à chaque tournant. Alors, il faut qu'on explique un peu à nos auditeurs à quoi ressemblait un théâtre au XVIIe siècle. Ça n'a rien à voir avec les grandes salles à l'italienne que l'on voit depuis le XIXe. On est dans des théâtres qui sont en train de s'inventer, en quelque sorte. Pendant très longtemps, le théâtre était un art d'improvisation et de plein air. Et là, d'un seul coup, on a des textes et des salles. Ça change tout.
Ça change beaucoup de choses. Et puis les textes commencent à arriver.
Mais oui.
Molière commence à écrire. Corneille, Racine, les grands auteurs de notre répertoire sont du XVIIe siècle. Il faut dire pour commencer que les nobles étaient sur le plateau. On n'avait pas la notion de décor, on n'avait pas l'électricité.
On disait les marquis sur la scène, c'est ça.
Absolument. Et le peuple, qui aujourd'hui est relégué au poulailler tout en hauteur, était en bas dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'orchestre, qui sont les places avec les meilleures visibilités.
Mais debout en revanche.
Absolument. Ouais. Mais à un moment donné, après au 18e, on a considéré qu'il faisait trop de bruit, on les a envoyés au poulailler. Mais la configuration même de la salle était très différente et il y avait surtout un éclairage à la bougie, au chandelle, qui a rythmé tout le théâtre du XVIIe siècle, puisque les actes durent à peu près le temps de qu'une chandelle se consume, à peu près entre 20 et 25 minutes.
Alors, les années 1650 et les suivantes qui vont nous occuper aujourd'hui, puisqu'on va parler de Marquise, sont les années des grandes machineries de théâtre, c'est-à-dire que nous vient d'Italie cette innovation des changements de décor, des trappes, des apparitions, des cintres, etc. Mais les 9 dixièmes des représentations sont donnés dans des moyens très très modestes. Il n'y a qu'un décor généralement et il n'y a pas de costumier à l'époque.
Chaque acteur, quand il rentrait dans une troupe, devait arriver avec deux costumes. Et des costumes qui n'avaient rien à voir avec la pièce qui était interprétée. C'était pas du tout des costumes historiques. C'était pas des costumes tragiques. C'était des costumes qui coûtaient cher et chaque acteur était responsable de sa garde-robe. Quant au décor, il y en avait très très peu. Il faut dire que les premiers machinistes qui ont aidé appris à l'articulation de ces machines étaient des marins. Et c'est la raison pour laquelle on a hérité aujourd'hui encore de toute la superstition des marins et des interdits que nous avons sur les bateaux.
Il y a des mots qu'on n'a pas le droit de prononcer.
On ne peut pas parler de la bête qui a des grandes oreilles et qui aime les carottes. Et on ne peut pas dire le mot CORDE qui porte vraiment malheur sur un bateau, par exemple. Encore toujours aujourd'hui.
Et il y a des couleurs qu'on ne porte pas. Ou
alors ça, c'est d'autres raisons. Le vert, on ne portait pas le vert parce que la teinture du vert était faite de telle façon que, avec la transpiration, quand on joue, on avait des problèmes de peau. Elle rendait malade. Alors on a gardé cette superstition et puis cette fâcherie avec l'Église qui nous a empêchés pendant longtemps de nous habiller en violet.
Alors la troupe de Madeleine Béjart, qui dans ces mois-là va devenir la troupe de Molière, arrive à Paris en 1659 avec évidemment en tout en haut de l'affiche celle qui fait venir les foules, la sublime marquise. Nous y venons dans un instant.
Sur Europe 1 de l'amour médecin, ballet composé par Jean-Baptiste Lully pour Molière, Franck.
Nous avons commencé cette émission à Rouen, qui était un peu la patrie du théâtre du fait de la présence de Pierre Corneille dans ses murs, mais au XVIIe siècle, il ne faut pas oublier qu'à Paris, il n'y a pas autant de théâtre qu'on pourrait l'imaginer, parce que tout ça est très contrôlé par la cour. Évidemment, le roi donne une approbation et un privilège à chaque troupe qui va pouvoir jouer, et il y en a donc très peu, Muriel Mayette.
Effectivement, il y a essentiellement trois grandes troupes, les comédiens de l'hôtel de Bourgogne, qui ont pendant longtemps été reconnus pour leur capacité à la tragédie, bien que l'un des piliers, c'est à nouveau un acteur, c'était le gros Guillaume, qui était plutôt un bouffon, lui, qui était plutôt comme le gros René dans la troupe de Molière.
C'est souvent dans les troupes le bouffon qui fait la réputation de la troupe, hein, d'ailleurs, il faut
absolument.
Le savoir, c'est lui qui fait venir la foule, c'est toujours la même chose.
Absolument, c'est le séducteur.
C'est ça, bien sûr.
Absolument. Oui. Il y a l'hôtel du Marais. Les acteurs de l'hôtel du Marais, en fait, étaient spécialisés dans les machines dont vous parliez tout à l'heure, les machines de théâtre, et puis la troupe de Molière qui s'est déplacée dans Paris, qui était pendant un temps au Louvre, et puis après au Palais Royal, et qui, lui, était spécialisé dans la comédie. Il y avait une rivalité incroyable entre les troupes et des allers-retours.
Dans la comédie et dans les pièces de Corneille, précisément. Il y avait les deux.
Absolument. Oui. Et les acteurs, c'était un grand chantage et un échange de monnaie que les acteurs passent d'une troupe à l'autre parce qu'avec eux, ils emmenaient leur public.
Mais oui, bien sûr. Et on suivait de très près l'évolution des troupes, bien entendu. Quand quelqu'un passait d'une troupe à l'autre, ça faisait un énorme scandale.
Absolument.
Alors, il y avait aussi une rivalité d'auteurs, il ne faut pas l'oublier. Il y a le jeune Racine à cette époque-là qui est en train d'émerger, qui va devenir la Coqueluche de son temps, au détriment du pauvre Corneille. On l'appelle toujours le vieux Corneille, mais quand on regarde les dates, il n'est pas si vieux que ça. Il a eu le malheur d'être célèbre trop tôt, lui, avec le Cid. Il avait à peine 30 ans. Hein.
Oui, il a été mis dans l'ombre de Racine, incontestablement. Bien qu'il il a un talent extraordinaire, mais il y a eu
telles
rivalités,
disons, voilà.
Par exemple. Il y a eu le Bérénice de Racine, et en même temps, il y a eu le Tite et Bérénice de Corneille, et c'est le Bérénice de Racine qui l'a emporté.
Qui a emporté tous les suffrages.
Il y avait une lutte entre eux épouvantable, et aussi entre les interprètes, et c'est vrai que Racine était un grand séducteur d'actrices, et qu'on va parler tout à l'heure de la marquise, de la Duparc, de Mademoiselle Duparc, puisque chaque actrice s'appellera jusqu'au bout du chemin Mademoiselle, c'est un de nos privilèges, est tombée amoureuse de Racine, a eu un enfant avec lui, alors que Corneille était sous ses charmes, mais je crois qu'il n'a pas obtenu grand-chose.
Alors, c'est intéressant le parcours de marquise, nous allons y venir avec Christophe Maury dans un instant. Comment expliquer que cette si jolie jeune femme qui faisait vraiment tourner la tête de tous ceux qui croisaient son chemin ait pu dans un premier temps épouser Gros René, qui était quand même pas le plus séduisant des acteurs de la troupe de Madeleine Béjart, c'est le moins qu'on puisse dire.
Non, mais elle a rencontré ce Gros René à Lyon, quand il était dans la troupe de Molière, et au fond, ce sont des milieux qui sont tellement exclus de la société, parce qu'ils sont bannis par la religion, parce qu'ils n'ont pas le droit d'être jurés, parce qu'ils sont considérés comme à part, et donc ils se marient entre eux. Et c'était une possibilité pour elle de prendre les routes, d'exercer ce métier. Et quand elle est arrivée à Paris avec Gros René, ils sont partis de la troupe de Molière pour aller à l'hôtel du Marais. Et puis après, étant donné qu'elle ne trouvait pas le succès qu'elle sentait mériter, elle est allée dans l'hôtel de Bourgogne après pour pouvoir être une des grandes interprètes de Racine.
Alors justement, elle a été la maîtresse de Racine. Certains disent même qu'elle aurait été sa femme. Alors ça, c'est très difficile à dire, on en parlera tout à l'heure, mais en tout cas, elle a joué un rôle dans l'inspiration du maître dans ses jeunes années.
Ah oui, elle lui a inspiré notamment Andromaque, il a écrit Andromaque pour elle, elle en a été une grande interprète.
Ce n'était pas le rôle en nombre de vers, c'est loin d'être le rôle principal de la pièce, mais c'est elle qui, évidemment...
C'est le rôle titre, voilà. C'est le plus important pour une comédienne quand même.
Et oui, bien sûr, elle l'incarnait. Et alors on dit qu'elle avait justement ce physique, ce profil grec qui faisait qu'elle était faite pour jouer la tragédie. En plus,
absolument, et elle a quitté notamment la troupe de Molière parce que les grands rôles étaient pour Madeleine Béjart, et elle a joué Elvire, elle a joué Arsinoé, mais on considérait que c'était des rôles mineurs, et donc elle avait envie de montrer sa capacité à déclencher la passion des foules, et elle a réussi à le faire dans la tragédie, mais elle est morte très jeune.
Alors on est justement à l'époque de la création de la Comédie française, on y viendra, on en dira un mot tout à l'heure. J'aimerais qu'avant d'entrer dans le détail de la vie de Marquise et de la suivre pas à pas, j'aimerais qu'on revienne sur ce qui reste le grand mystère de sa vie. Ça tombe bizarrement puisque c'est précisément sa mort.
Avec votre récit franc consacré maintenant sur Europe 1 à la mort d'une grande séductrice devant l'Éternel, Marquise.
Oui, alors on va, si vous voulez bien, quitter un moment les tréteaux et les planches et l'univers festif des théâtres de Paris pour gagner la vieille forteresse médiévale de Vincennes. Nous sommes en mars 1679, au cœur de ce que l'histoire va retenir comme le plus sombre épisode du règne de Louis XIV, l'affaire des poisons. Le 12 de ce triste mois, les exempts de Monsieur de Larrénie ont arrêté à la sortie de la messe sur le parvis de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle une aventurière et diseuse de bonne aventure, avorteuse à ses heures et grande habituée dès lors de tous les poisons possibles, Catherine des Hayes, veuve mon voisin et connue partout sous le nom qu'elle conserve de devant l'histoire, la voisin. Elle est interrogée sans désemparer pendant des jours entiers, des semaines. Elle reste sur la sellette et elle a la langue bien pendue, la voisin. Il se trouve sans doute qu'elle essaie de gagner du temps, probablement. Elle livre aux autorités des... Elle sait très bien que le jour où elle va être jugée, elle sera condamnée. Et qui dit condamnation sous l'Ancien Régime dit châtiment corporel, terrible, torture, question, c'est horrible. Donc elle livre des noms, elle les distille petit à petit. Tous ces noms sont bien sûr versés au dossier criminel, noms de complices et de clientes qui arrivent par listes entières jusque sur le bureau du ministre Louvois. Et vous savez que certains de ces noms touchent la cour et même le roi, faut-il citer Madame de Montespan. Et voilà que courant novembre, donc vous voyez, ça fait 8 mois déjà qu'elle fait comme ça ces petites révélations, voilà qu'au mois de novembre, la voisin, au cours d'un interrogatoire de plus, interpelle, il en a l'habitude, le conseiller d'État Bazin de Beson, qui est bien vu du ministre Louvois, et qui se trouve être membre de l'Académie française. Vous allez voir que ça joue un rôle, parce que, évidemment, ça laisse supposer que ce Bazin de Beson est proche de Racine. Pourquoi, monsieur le conseiller, ne m'interrogez-vous jamais sur la mort de Marquise Duparc, la comédienne? Est-ce parce que vous appartenez à la même société que le sieur Racine et qu'entre académiciens, on n'aime point se chercher pouille? Imaginez que Bazin de Beson sursaute un peu. Il y a déjà du temps que j'ai l'intention de vous déclarer que la Duparc doit avoir été empoisonnée et que l'on soupçonne Jean Racine. Et là, la voisin ajoute, le bruit en a été assez grand. Sous-entendu, si vous n'avez même pas été capable, vous, de relever cet élément, c'est que vous faites mal votre travail. C'est le grand scénariste Léon Trèche qui a dialogué ce qui, au départ, relève évidemment des minutes de l'interrogatoire de Bazin de Beson. « Même si la chose était vraie, questionne le conseiller, qu'est-ce que vous en sauriez, vous? Est-ce que vous avez fourni le poison? Voulez-vous dire que Racine était un de vos clients? Point! Je ne suis pour rien dans cette affaire, j'en fais serment. Mais j'aimais Marquise. J'étais lié d'amitié avec elle. Je l'avais connue il y a 14 ans, et en ce temps-là, je savais toutes ses affaires. Sera-t-elle aujourd'hui la seule dont la mort ne sera pas vengée? Cela, je ne le voudrais point. » Alors, bien sûr, Bazin fait son rapport, un rapport à Louvois, et Louvois prend les choses très, très au sérieux. « Le sieur Racine, poursuit la voisin, avait épousé secrètement Marquise. Il était jaloux d'elle, terriblement, et j'ai connu bien d'affreuses scènes de ménage entre eux, dont je n'ai point parlé à quiconque, à la prière de mon ami. » Alors là, vous imaginez la surprise de Bazin.
Racine mariée, mais quelle est encore cette nouvelle invention ? Dans le milieu où vivait la Duparc, il aurait été bien empêché de cacher cette union, et la Duparc ne passait pas pour être si discrète. Aussi, croyez bien, monsieur le conseiller, que ce mariage était connu de plus d'un des camarades de Marquise. Béjart, par exemple, ne l'ignorait pas, non plus que la Gorle, c'est la mère de Marquise, qui m'en a parlé bien souvent avant et après la mort de sa fille. Si je vous comprends bien, ce serait par jalousie que Racine aurait empoisonné sa maîtresse, sa femme. Exactement. C'était déjà par jalousie qu'il lui avait fait quitter 2 ans plus tôt la troupe du sieur Poquelin d'Imolière. Marquise était donc légère. Faut-il que la jalousie ait un objet pour s'exercer ? N'est-ce pas quand elle est sans raison qu'elle fait encore le plus de ravages ? Et à ce moment-là, en tout cas si l'on en croit les minutes de l'interrogatoire, la voisin désigne le chevalier de Rohan comme l'amant et comme un amant extrêmement pressant de Marquise. Quand je dis amant pressant, le chevalier de Rohan était le grand veneur de France. À l'époque, c'était un grand personnage. Il a été exécuté en 1674 pour avoir trempé dans un complot assez ridicule d'ailleurs. Enfin, ça nous entraînerait loin. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que ce chevalier de Rohan, réputé le plus bel homme de France, était effectivement un amant assez gaillard et qu'effectivement, on sait qu'il a eu une liaison avec Marquise. Alors, est-ce qu'il serait allé au point de lui proposer de l'épouser, comme l'affirme la voisin ? « L'épouser !» dit Bazin de Beson. « Enfin, vous vous moquez de moi, bonne femme !»« J'ai ces lettres que Marquise m'avait données. Vous n'avez qu'à les lire. » Après, à cette époque, les Gorles et moi, nous nous voyions presque quotidiennement. Nous ne nous cachions rien. Puis survint le sieur de Racine qui nous chassa de la maison de Marquise et ne voulut plus personne autour de sa femme. Je vois, vous ne lui avez point pardonné. Et la voisin affirme qu'à ce moment-là, le chevalier de Rohan continuait à voir Marquise, qu'il faisait assaut de galanterie et même qu'il aurait pu lui faire un enfant. « Vous avez des lettres ?» demanda Bazin. « Non, monsieur de Rohan avait cessé d'écrire à Marquise. Mais n'est-ce pas la preuve qu'il avait réussi dans ses manœuvres ? S'il voyait Marquise en secret, il n'avait plus besoin de lui écrire. » Racine aurait donc appris la trahison de sa femme et l'en aurait puni, c'est ce que vous essayez de me dire. « Oui, c'est bien cela !» Vous a-t-il donc fait proposition de le défaire de la Duparc par le poison ? Il aurait été mal reçu. S'est-il adressé à une autre de vos pareils ? Je ne sais pas. À votre amie, la de Lagrange, par exemple ? Je ne sais pas. Allons, tout cela n'est pas mal inventé. Vous avez autant d'imagination que Madame de Lafayette ou Mademoiselle de Scudéry, mais moins plaisante. S'il n'y a là qu'invention de mon imagination, monsieur, pourquoi, pendant la maladie de Marquise, le sieur Racine n'a-t-il laissé approcher personne de son lit, pas même sa vieille servante Nanette, qui était toute dévouée à sa maîtresse ? Pourquoi m'a-t-il, moi, empêché de venir soigner mon ami ? Pourquoi n'a-t-il pas permis à la mère de Marquise de l'embrasser avant qu'elle n'expirât ? Pourquoi n'ai-je pu écouter les confidences qu'elle demandait à me faire et qu'elle n'a jamais pu me faire de vive voix ?
Un récit de Franck qui revient sur les causes et les circonstances de la mort de la Marquise.
De Marquise, donc Marquise Duparc, cette grande comédienne du XVIIe siècle, pour ceux qui nous rejoindraient maintenant. La voisin, la terrible empoisonneuse, celle qui est au cœur même de toutes les dépositions qui ont impliqué tant de grands noms dans l'affaire des poisons, la voisin affirme que Marquise aurait été empoisonnée sciemment par Jean Racine, notre grand tragédien chéri, Jean Racine, et qu'il l'aurait empoisonnée par jalousie. Et alors, dit-elle, parce qu'elle était enceinte, il a voulu la faire avorter, il voulait en vérité tuer la femme et l'enfant, c'est ce qu'elle affirme, le rapport que Bazin adresse à Louvois. Le 11 janvier 1680, Louvois fait porter au conseiller Bazin un pli qui concerne une complice secondaire de la voisin, la femme Larcher, et un mot accompagne ce pli, ça c'est assez étrange, vous allez voir. « Vous trouverez ci-joint, monsieur, les ordres du roi pour faire arrêter la dame Larcher. Ceux pour l'arrêt du sieur Racine vous seront envoyés aussitôt que vous les demanderez. » Et ça, c'est signé Louvois. Ça paraît quand même assez extraordinaire, et d'autant plus extraordinaire qu'en vérité, aucune procédure ne sera ouverte contre l'écrivain. Il faudra attendre bien plus tard, c'est-à-dire les années 1920, pour qu'on ressorte, en travaillant sur l'affaire des poisons d'ailleurs, pour qu'on ressorte ces dépêches et qu'on se rende compte des accusations de la voisin contre Racine. Et d'ailleurs, les chercheurs qui ont découvert ça dans les années 30 étaient eux-mêmes bien étonnés. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est celle évidemment de des hypothèses que l'on peut formuler. Est-ce que Racine aurait empoisonné Marquise par jalousie, comme l'en accusait la voisin ? Ça paraît vraiment plus que très improbable. Est-ce qu'il a indirectement contribué à son empoisonnement en tentant de la faire avorter à l'aide de potions malfaisantes ? Ou bien est-ce qu'elle aurait elle-même tenté d'avorter sans en avertir Racine, à moins encore qu'elle ne soit morte dans d'autres, circonstances ? Vous imaginez bien que le plus récent biographe de Marquise, Christophe Maury, présent dans ce studio, a son idée sur la question. Il va nous la livrer dans un instant.
Magnifique, un ballet composé par Jean-Baptiste Lully, toujours pour Molière, Franck.
Alors, bonjour Christophe Maury.
Bonjour Franck.
De quoi finalement est-elle morte, cette marquise ?
Oh, elle est morte d'un avortement raté.
Un avortement par voie d'empoisonnement ou...
Non, avec des grandes aiguilles, comme ça se faisait à l'époque. Il fallait percer la poche des os. Et elle est morte effectivement seule chez elle, rue Quincampoix. Et effectivement, Racine était son amant et l'enfant était probablement de lui. Catherine Deshaies, lorsque...
Il n'était donc pas, d'après vous, il n'était pas du chevalier de Rohan, l'enfant. Il était bien de Racine lui-même.
Oui, il était bien de Racine. Et Racine, d'ailleurs, sera inconsolable pendant l'enterrement. Et il sera presque porté par La Fontaine et par Boileau.
C'est Boileau qui raconte toute la scène, hein, d'ailleurs.
Absolument. Et donc Marquise, oui, c'est un avortement raté. Vous savez, vous avez parlé de la voisin, l'empoisonneuse. On a retrouvé quand même 5000 fœtus dans le jardin de la voisin, rue Beauregard. Maintenant, il y a un tailleur pakistanais, il n'y a plus le jardin. Mais il faut aller voir, parce qu'on frissonne un peu quand on est devant cette maison. Voilà. Mais alors, c'est la mort d'une femme qui est certainement pour moi le premier people de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a parlé des comédiens, Muriel Mayette parlait des comédiennes, des grandes tragédiennes. On a remarqué que Marquise n'avait que des petits rôles.
Oui, c'était pas, disons-le honnêtement, c'était pas un génie de l'interprétation. Elle n'est pas une grande comédienne. Elle est une très belle comédienne et elle a une présence.
Alors, elle est très belle. Elle a vraisemblablement 1m10 de jambes. La première fois qu'on la voit à Lyon, elle est sur une balançoire et elle a sa jupe qui remonte le long de sa cuisse jusqu'à la culotte, lit-on dans les textes. Mais elle a que des petits rôles. Pourquoi a-t-elle des petits rôles? Et je me pose la question. Et je me dis, mais si vraiment elle devait briller, pas forcément par jalousie de la Béjart ou de Catherine de Brie ou d'autres. Et je me suis posé la question. Et ensuite, on a le fils de Racine qui dit quelque part, au sujet d'Andromaque, mon père lui faisait apprendre le rôle, la faisant annonner comme un écolier.
On entend d'ailleurs ça dans le célèbre film qui a été consacré à Marquise avec Sophie Marceau. On en entend un extrait maintenant.
Ah, Seigneur, arrêtez. Que prétendez-vous faire ? Si vous livrez le fils, livrez-leur donc la mère.
Phénix vous le dira, ma parole est donnée.
Monsieur, que voulez-vous que je vous dise encore ? Auteur de tous mes maux, prince qui les ignore, Seigneur, voyez l'état où vous me réduisez.
Cette phrase n'est pas de moi.
Ah bon ? Ça m'est venu naturellement.
Prétendez-vous nous réécrire ma pièce ?
Mais c'est Andromaque qui parle en moi, sans vous et sans voix.
Ah non, il n'en est pas question, non.
Molière vous enseignerait un peu d'humilité.
Paix ce soit de Molière.
Plus d'une fois, Gros René lui trouva des répliques dans le feu de la scène. Molière les garda sans jalousie, comme précieux témoignage d'une précieuse amitié.
Marquise de Vera Balmont, un film de 97 avec Sophie Marceau qui interprète Marquise et Lambert Wilson qui interprète Racine.
Et nous retrouvons dans un instant, toujours en compagnie de Christophe Maury et de Mademoiselle Muriel Mayette.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck est toujours en compagnie de l'administratrice générale de la Comédie-Française, Muriel Mayette, également avec nous Christophe Maury, auteur de Marquise du Parc ou la vie sensuelle d'une comédienne, de Molière à Racine, itinéraire d'une séductrice aux éditions du Moment.
Alors on entendait à l'instant, Christophe Maury, cette scène de film où Racine fait littéralement annonner son rôle à la pauvre marquise qui a bien du mal à l'apprendre. Alors, d'où venaient ces difficultés d'après vous ? Vous avez une thèse, vous, là-dessus ?
Mon idée, c'est qu'elle ne savait ni lire ni écrire.
Mais oui. Très rare.
Pas si rare à l'époque.
Mais non, c'était
surtout quand on sait d'où elle vient. Il faut expliquer d'ailleurs un peu ses origines. Hein,
son père est batteleur. Il vend à Lyon des onguents, des potions, et c'est une sorte de pharmacien. Il arrache
c'est
des dents.
Un bon inventeur de foire.
Oui,
en
c'est
fait,
ça.
Hein. Il dresse des petits singes pour attirer la foule.
Alors il dresse pas des petits singes.
Non.
Il fait danser sa fille.
Oui, alors après.
Donc c'est elle. C'est elle qui danse autour du stand, et c'est en la voyant danser que Gros René et Poquelin vont se dire mais cette fille est formidable, et ils embarquent la belle. Ils embarquent la belle à Pesnas, où elle rencontre Conti. Et c'est parce qu'elle est là que Conti va choisir la troupe des Béjart, parce qu'il la trouve sublime et il la veut dans son lit. Et ensuite, quand ils vont à Rouen pour faire valider leur façon de jouer Corneille à Corneille, ça devait durer une semaine, ça va durer 6 mois, parce que Corneille tombe amoureux de cette fille et dit « moi je ne les lâche pas tant qu'elle n'est pas dans mon lit ». Et ensuite, quand ils arrivent à Paris, ça pourrait très bien se passer, sauf que Corneille, vous le disiez Muriel Mayette, Corneille va retirer Berthelot et sa femme pour les emmener au Marais. Pourquoi ? Pour garder de l'ascendance sur eux. Là, elle va pratiquement pas jouer au Marais. Ils vont revenir faire amende honorable à Poquelin, qui naturellement est tellement fou de cette fille qu'il la reprend. Mais ce qu'ils veulent, eux, c'est jouer des rôles ensemble, Gros René et sa femme. Alors ils vont faire Don Garcia de Navarre. Mais ça va être un flop, parce que ça va être du sous-Corneille.
C'est assez étrange, finalement, de voir tous ces bourdons qui tournent autour de cette fleur. Hein.
Mais vous savez, ce sont des hommes de chair. Alors, on dit toujours, Corneille, Racine, Molière. Il y a une dame, dans un salon du livre, à Limoges, qui voit ma biographie de Molière. Elle lit la 4e de couverture, et puis elle le pose en soupirant, en disant, ça me rappelle le lycée. Oh, moi j'ai soupiré, et je me suis dit, il faut que je fasse une approche de Molière, Corneille, Racine, différente. Donc j'ai pris la sensualité, et la sensualité chercher la femme. J'avais un trait d'union formidable, il s'appelle Marquise du Parc, c'est pour ça que je l'ai fait.
Et vous la décrivez comme si vous l'aviez connue, et quand je dis connue, c'est au sens biblique du terme. Vous en livrez une description d'une sensualité torride.
Ben je suis un peu son amant.
C'est ça.
Non mais
elle est si belle que ça. Décrivez-le-nous un peu, en fait.
Donc c'est une fille qui est grande. Par ses origines italiennes, on peut l'imaginer brune. On sait qu'elle a des yeux bleus, qu'elle a des petits seins, qu'elle a un très joli nez, un très joli menton, qu'elle a un cou. Et ça, on le sait parce que c'est décrit par Molière lui-même dans, je crois que c'est dans la critique de l'école des femmes. Non, c'est dans le mariage forcé. Donc il la décrit physiquement, et pour qu'il la décrive avec autant de détails, ses petits seins, c'est que vraiment, il l'avait connue. Alors, on est fou de cette marquise. Elle est donc grande, elle est danseuse, elle a donc 1m10 de jambes, visiblement. quand elle arrive sur scène, on met 2 tambourins, elle fait une pirouette.
On dit qu'elle avait un port d'impératrice.
Alors, il y a autre chose de très curieux, c'est qu'elle a toujours la chevelure qui tombe.
Pourquoi ?
Et dans l'impromptu de Versailles, il y a une scène d'une grande cruauté entre Mademoiselle Molière, donc Armande, qui va la voir en disant « Que vous êtes belle ! Non, non, je suis très laide. Mais si vous êtes très belle, mais non, je suis très laide, montrez-moi vos cheveux et montrez-moi ce qui est sous vos cheveux. » Et elle cherche à lever la coiffure de Marquise. Et Marquise, à ce moment-là, devient folle furieuse.
Il faut dire que cet impromptu de Versailles, c'est la vie de la troupe.
C'est la première fois,
c'est une mise en abîme extraordinaire. Pour la première fois, on montre la troupe à voir au public.
Et en train de répéter.
C'est extraordinaire.
Et de réfléchir sur les textes. Et elle dit à Molière, et moi, qu'est-ce que je fais ? Il lui dit, oh ben vous, bougez. C'est tout ce que vous savez faire, bouger. Donc, elle va danser. Mais qu'est-ce qui se cache sous les cheveux ? Pourquoi Molière ? Rien n'est gratuit chez Molière. Pourquoi Molière fait cette scène, décrit cette scène de sa femme qui lève les cheveux de Marquise ? Qu'est-ce qui est caché derrière, sous des cheveux ? Des oreilles. Eh bien, pourquoi ? Elle devait avoir des oreilles anormales. Donc certainement...
Ça c'est votre fantasme personnel.
Non, mais non. Donc moi j'imagine de grandes oreilles et certainement très érogènes.
Ah bon, voilà.
Voilà.
Alors érogènes pour tout le monde, parce que à la limite qu'elles séduisent un barbon comme Pierre Corneille ou un homme très léger, volage comme Molière, ça peut se comprendre. Mais alors Jean Racine, franchement, il fallait quand même se lever de bonne heure pour le rendre fou amoureux. Or il est fou d'amour pour cette
marquise. Ah non, mais Racine, il y a un problème fondamental chez Racine, c'est qu'il vient de Port-Royal.
Mais c'est ça.
Et, oui, mais il y a le corps chez lui, le travail sur le corps, le dépucelage, c'est un truc épouvantable pour lui. Mais en même temps, il est attiré par ça. Il brûle. Il brûle comme brûleront un peu ces mystiques. Mauriac le dit très bien dans son livre sur Racine. Il brûle en permanence. C'est toujours le péché de la chair. Mais la chair, en même temps, il faut la montrer sur les tréteaux, sur la scène. Et Marquise, pour ça, c'est vraiment l'objet, le sujet à la fois de son inspiration, mais aussi de sa damnation.
Est-ce que vous avez conscience de tout ça quand vous reprenez les grands rôles du répertoire à la Comédie-Française, Muriel Mayette? Est-ce que ces comédiens qui étaient à l'origine, à la création même des pièces, ont encore un rôle, ont encore une influence sur les comédiens d'aujourd'hui?
Oui, on a parfaitement conscience de faire partie d'une chaîne d'interprétation.
C'est ça, hein?
Il y a peu de temps, j'ai fait une histoire de la Comédie-Française et on disait à un moment donné, si on allait jusqu'au rang S... des places, on aurait tous les sociétaires depuis 1680, c'est-à-dire 550 à peine. C'est rien. Et donc, ces présences, elles ont beaucoup d'importance, bien sûr. Surtout la façon dont vous décrivez cette femme.
Là,
entre la séduction et la fascination, bien sûr. Et quand on interprète Racine, par exemple, on comprend dans notre propre chair à quel point il comprenait le désir féminin. Il a écrit les plus beaux rôles sur le désir féminin, quand même.
Oui, il savait se mettre, il avait une
dans
empathie,
un
comme on dit aujourd'hui, immense.
Oui, puis une connaissance
de la nature.
De ce désir-là,
même, oui.
de cette pâmoison.
Alors, dans vos trois salles en ce moment, qu'est-ce qu'on peut voir de beau et de même de très beau? Je dis vos trois salles, la salle Richelieu en ce moment est en pleine restauration. Donc, vous avez un théâtre éphémère dans la cour même du Palais Royal qui fait un peu songer d'ailleurs à ce qu'a pu être autrefois le théâtre.
Parce qu'il est en bois.
Il est en bois.
Donc,
voilà.
On est reparti du théâtre de Tréteaux, mais c'est un théâtre de Tréteaux très
amélioré, oui.
Et donc, on a Don Juan. On a ouvert avec Don Juan qui a mis en scène Jean-Pierre Vincent. Il y a l'école des femmes en alternance de Jacques Lassalle. Et puis, au théâtre du Vieux Colombier, on a Antigone d'Anouilh, il y a longtemps qu'on n'avait pas joué d'Anouilh.
C'est magnifique.
Et on a au studio théâtre la critique de l'école des femmes qu'a mis en scène Clément Hervieux-Léger. Et puis bientôt, on va avoir au studio Les Trois Petits Cochons dans ma catégorie Abordons les contes pour que toutes les générations viennent ensemble au théâtre.
Là, c'est une adaptation du conte des
absolument,
Trois Petits Cochons.
Absolument.
Oui, c'est ça.
Bon. L'année dernière, c'était Le Petit
Prince. Je me disais, tiens, je ne connais pas ça. On va dire quoi,
mais... Les Trois Petits Cochons, vous connaissez.
Ah, ben je connais le conte, oui, ça, évidemment.
Ça compte parfaitement politique.
N'est-ce pas?
Et puis on aura la place royale de Corneille au Vieux Colombier mis en scène par Anne-Laure Liégeois et le chapeau de paille d'Italie de la Biche mis en scène par Giorgio Barberio Corsetti.
Ah, vous devriez venir plus souvent parce que tous ces noms, tous ces titres, c'est la poésie, c'est tout ce qu'on aime dans cette culture française. Vous avez d'ailleurs un succès fou à la Comédie Française. Hein. Dès que les abonnements sont ouverts, dès que les guichets sont ouverts, tout est complet.
On
très
est
vite.
Un peu victime de notre succès parce
tant
que
mieux,
parfois on n'a plus de place, mais on a la capacité de reprendre les spectacles année après année, donc on le fera.
Mais il faut dire, Muriel Mayette, que la Comédie Française n'a jamais été aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de la troupe. Et on sent un esprit de troupe. Les acteurs sont formidables et la troupe, l'esprit de troupe, on le retrouve avec vous, grâce à vous, Muriel Mayette.
Merci, mais grâce aux acteurs, surtout. Merci beaucoup.
Puisque nous sommes dans les politesses, laissez-moi citer votre ouvrage, Christophe Maury, dont vous nous avez laissé comprendre toute la sensualité. Marquise ou la vie sensuelle d'une comédienne, de Molière à Racine, itinéraire d'une séductrice, c'est aux éditions du moment. Vous avez, il faut le dire, comme toujours avec vous, il y a une grande rigueur dans les sources et en même temps une écriture très romanesque puisque vous instillez là-dedans des dialogues, des scènes qui sont quasiment de fiction. Hein,
on les vit.
Voilà, c'est ça, on vit les choses. Merci beaucoup à Bernard qui nous envoie un petit mail et qui dit « Alors là, grand dilemme !» Cornélien, n'est-ce pas? À 7h, 13h30, je dois choisir entre deux délices. Écouter votre émission ou bien manger une glace au chocolat et à la chantilly avec une petite lichette de vieux rhum. Eh bien, grâce à vous, je crois que je vais retrouver mon poids de forme. Merci beaucoup à Bernard. Dans un instant, nous retrouvons Elena Mornin.